Chapitre 3. Le druide. Ainsi commençait l'histoire de Faith. Il y a fort longtemps vivait sur cette terre un vieux roi qu'on appelait Toland et qui était bon et juste. Il avait fait construire sa demeure, un somptueux château comme aucun roi ne pourrait encore reconstruire aujourd'hui, dans la ville de Providence qui, à l'époque, ne s'appelait pas Providence, mais Amelsen. Le royaume du roi Toland s'étendait de l'Anse des Bonnes jusqu'au nord de la Gaëlia. Ses sujets vivaient paisiblement de la pêche, la chasse, l'élevage et l'agriculture. C'était avant l'arrivée des Galatiens, bien avant même que ne soit érigé au nord le prestigieux palais de Saïmina. En ce temps-là, il y avait sur cette riche terre des hommes, des nains, des lutins, des loups et bien d'autres créatures aujourd'hui oubliées et qui vivaient en harmonie. C'était comme un très grand village où tout le monde se connaissait. Il n'y avait pas de guerre et les hommes ne connaissaient que la terre, les arbres, les fleurs, les oiseaux, la mer, les poissons et le soleil. Mais comme le roi se faisait de plus en plus vieux, son fils, Ersen, commençait à trouver le temps long. Le prince était un adolescent aussi ambitieux qu'égoïste, et il n'attendait qu'une chose, prendre la place de son père pour diriger le royaume à sa guise. La reine était morte quelques années plus tôt et le roi, trop occupé par les affaires de l'État, n'avait pas pris le temps d'élever son fils comme il se doit. Il le regretta toute sa vie, comme le font tous les pères trop absents. Mais le pauvre Toland, qui, je l'ai déjà dit, était juste et bon, essaya tant bien que mal d'assurer l'éducation de son fils. Il fit construire pour lui une magnifique cité sur l'île du Mont-Tombe, qu'on appela Murolavan, la cité des instruits, car il y fit venir les plus grands savants. C'était à l'époque où le savoir se transmettait par les livres, avant l'arrivée des druides. Oui, car les druides nous enseignèrent plus tard la supériorité des mots que l'on dit sur ceux que l'on écrit. Le vrai savoir se transmet de bouche à oreille comme un précieux secret. Mais je peux vous dire également que c'est sur les ruines de cette cité de Murolavan que l'évêque Thomas Aeditus a fait construire l'université du Mont-Tombe, car lui croit au livre et à l'écriture. Et je dois avouer que même si j'ai peu d'estime pour cet Aeditus, sa bibliothèque est la plus riche que j'ai vue en Gaëlia. J'ai visité toutes les grandes villes de ce monde. J'ai vu Farfanaro, Tarnea, Providence et Ria. J'ai même vu de grandes villes au-delà des mers du Sud. Mais jamais je n'ai vu plus belle bibliothèque que celle du Mont-Tombe. Des copistes y travaillent jour et nuit, reproduisant à la plume les plus beaux livres sur des peaux de moutons tannés. On y trouve l'unique exemplaire du Livre des Invasions. On y trouve les grandes cartes du monde dessinées par les marins de Bizagne. Il faudrait plusieurs vies pour lire tout ce que contient cette bibliothèque. Quoi qu'il en soit, revenons à notre histoire. Après quelques années passées en pension à Murolavan, le prince Ersen était donc lui-même devenu fort instruit. Oh, bien sûr, pas autant que le sont les druides, mais il connaissait fort bien la géographie, l'histoire et la philosophie des anciens. Et même s'il n'y avait pas eu de guerre depuis fort longtemps, le jeune prince insista pour qu'on lui apprît les secrets du combat et de la stratégie militaire. Le savoir au service du pouvoir, ce n'est pas toujours la meilleure alchimie. Quand il manque la bonté. Avant même de devenir roi, le jeune Ersen décida de parcourir le pays pour assurer son autorité sur les sujets de son père, percevoir de nouveaux impôts et vérifier que tout le monde se soumettait à la loi royale, du moins telle que lui l'entendait. Il traversa le royaume à cheval de long en large, à la tête d'une armée de 300 hommes, malgré les protestations de son père. Et là où Toland avait su se faire apprécier par ses sujets, le prince, lui, se fit craindre et haïr par sa cruauté et son égoïsme. C'était, il faut le dire, un chef exceptionnel, un habile manipulateur de la rhétorique, et il était parvenu sans peine à convaincre ses soldats du bien fondé de sa mission. Après quelques semaines de voyage seulement, les 300 hommes qui accompagnaient Hersen étaient devenus des brutes sauvages, mais obéissantes. Les plaintes remontèrent très vite jusqu'au roi, dans son château d'Amelsen, et Tolland sombra bientôt dans un profond désespoir. Il était vieux, et s'il venait à mourir, il laisserait alors tous ses sujets à la merci d'un fils, qui ne lui ressemblait pas, dont la cruauté ne cessait de croître, et sur lequel il n'avait plus la moindre autorité. Tolland demanda alors à tous ses conseillers ce qu'il devait faire, mais tous ne voyaient qu'une solution, se débarrasser du fils indigne. Tolland ne pouvait s'y résoudre, et cela ne fit qu'alourdir son désespoir. Un matin, alors que le roi était prêt de mourir, rongé par la tristesse et le désarroi, un étrange messager vêtu de noir, la tête dissimulée sous une capuche inquiétante, demanda à ce que Tolland lui accorde un entretien. Les conseillers du roi n'appréciaient guère l'idée, en de telles circonstances, mais le messager se montra si pressant qu'il finit par les convaincre de le mener jusqu'au chevet du roi mourant. Peut-être même usa-t-il de magie. Il était grand, mince et avait des gestes gracieux. Quelque chose dans sa démarche inspirait le respect. Il avait l'allure d'un roi. « Sire, commença-t-il en baissant sa capuche derrière sa nuque, dévoilant alors ses traits fins, ses oreilles effilées et la couleur étrange de sa peau qui avait la même texture que le bois. « Je suis Oberon, roi du peuple Sylve, et je suis venu de la forêt de Brocélia pour vous offrir notre aide. »
« Un autre roi ?» « Sur mon royaume ?»
balbutia Tolland en s'étouffant. Le Sylve sortit de sa poche une fleur séchée qui avait pourtant gardé sa couleur rose. « Chaque année, l'arbre de vie de notre forêt donne une fleur que nous autres Sylves appelons la muscaria. »«
Qu'est-ce que l'arbre de vie? Et qui habite ma forêt ?»
s'indigna le roi. Mais le Sylve ne répondit pas. Il continua son histoire d'une voix douce et calme, comme s'il parlait à un enfant. Celui qui mange cette fleur rajeunit d'un an. C'est le cadeau de l'arbre de vie. Ainsi, selon la légende, si un homme venait à manger chaque année la nouvelle muscaria, il serait éternel. Tolland fronça les sourcils et jeta des regards inquiets à ses conseillers, regroupés derrière le Sylve. Mais ceux-ci semblaient plus intéressés par la fleur que par leur roi mourant. « Mangez cette fleur, sire, et chaque année, le peuple Sylve viendra vous en offrir une nouvelle. Ainsi vous serez éternel, et votre fils ne sera jamais roi. » Les deux monarques, l'un Sylve et l'autre humain, parlèrent ainsi jusqu'à la fin du jour. Et quand le soleil eut totalement disparu derrière les sommets roses des montagnes de Gordraka, le roi Tolland accepta finalement l'offrande du peuple Sylve. Ainsi, chaque année, sous les effets magiques de la muscaria, le roi rajeunit d'un an et très vite il retrouva toute sa vigueur. Le prince Hersen, comprenant qu'on lui volait son destin, devint fou et attaqua son père avec sa propre armée, qui comptait à présent 500 hommes. Mais les troupes du roi furent les plus fortes, et Hersen trouva la mort sur le champ de bataille, devant les yeux emplis de larmes de son père, qui, vous le savez, était juste et bon. L'année d'après, le roi arrêta de manger la muscaria que lui offraient les Sylves. Il avait eu depuis un deuxième enfant, d'une deuxième femme. Et quand cet enfant fut en âge de gouverner, Tolland lui fit promettre qu'il respecterait le pacte des Sylves. Il se laissa mourir l'hiver suivant. Son fils devint lui aussi un roi juste et bon, et il respecta la promesse que Tolland avait faite aux Sylves, comme le firent par la suite tous les rois jusqu'à ce jour. « Et quelle était cette promesse ? » demanda Aléa à la barde, alors que celle-ci avait fermé les yeux, comme si elle attendait cette question. « Que la forêt de Brocélia et ses secrets restent à jamais sous la protection du monarque. C'est pour cette raison qu'on sait si peu de choses au sujet des Sylves, et que quelques petites filles même pensent qu'ils n'existent pas. » Tous les clients de l'auberge applaudirent la barde, certains même en riant. Faïs fit un clin d'œil à Aléa, puis reprit sa harpe pour chanter enfin sa chanson. 1. Pas de chant pour le nombre 1, car une seule chose est unique, qui n'a rien avant, ni rien après, la mort. 2. Bœufs attelés à une roulotte, tirent les acteurs dessus la route, jusqu'à en mourir, quelle tristesse. 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins. 3 royaumes pour le Samil Danak. 4 pierres à aiguiser pour affûter l'épée des braves aux 4 coins de la Gaélia. 5 âges dans la durée du temps pour les dieux, les bêtes et les hommes. 5 âges, puis recommence. 6 plantes médicinales et dans le petit chaudron, le petit nain mêle le breuvage. 7 planètes parmi nous, 7 cordes sur la harpe du barde qui s'accordent dans l'harmonie du monde. 8 vents qui soufflent depuis les 8 mers du monde sur la montagne de la guerre. 9 lutins qui dansent, 9 férilimes qui chassent, 9 chiffres qui résument le monde. 10 vaisseaux ennemis qu'on a vus venant du sud. Malheur à nous. 11 prêtres armés, avec leurs épées brisées et leurs robes ensanglantées. 12 mois dans l'année, 12 grands druides, pour tout terminer. Tard dans la nuit, quand tous les clients de l'auberge furent partis, Aléa remercia les 2 aubergistes et partit, exténuée, dans la chambre qu'on avait préparée pour elle. Son ventre lui faisait mal de nouveau, et elle espérait trouver un peu de repos. Malgré la fatigue, elle eut du mal à s'endormir, excitée par tous les événements de la journée. Elle se demandait comment allait finir sa rencontre avec les aubergistes. Elle ne croyait pas un instant qu'elle pourrait rester ici longtemps. Elle n'était jamais restée très longtemps amie avec qui que ce soit, à part avec Amine. Le souvenir de son ami lui revint alors comme un éclair dans la nuit. Amine Salia, la fille du forgeron, avait offert à Aléa une amitié sans égale. L'année de ses 11 ans, toutes deux s'étaient retrouvées en secret chaque soir. Elles s'inventaient des jeux, s'apportaient des cadeaux, se racontaient leur journée et s'écoutaient mutuellement avec une passion bouillonnante. Amine racontait le métier de son père, Aléa racontait la vie des rues, puis elle rêvait d'un ailleurs, d'une autre vie qu'elle pourrait vivre ensemble, loin des exigences stupides de ce village de fermiers. Elle partait alors en courant, se moquer des adultes imbéciles et de leurs occupations vaines qu'elles épiaient en riant depuis les toits du village. Ce fut comme une révolution pour Aléa. Pour la première fois, on la regardait avec admiration. Pour la première fois, elle était écoutée, surtout comprise, et elle s'en trouva entièrement transformée, comme si se sentir moins seule l'avait sortie de l'enfance pour la plonger dans un âge merveilleux où l'on essaie de se faire confiance à soi-même et où même les échecs ont la saveur de l'apprentissage. Les 2 petites filles se comprenaient entièrement, parce qu'elles ressentaient les mêmes choses, qu'elles avaient les mêmes réactions au même moment, et que d'un simple regard, elles pouvaient tout se dire. Elles s'imaginèrent qu'elles allaient avoir chaque jour de nouvelles histoires à raconter, de nouveaux jeux à découvrir, de nouvelles aventures à vivre. Elles crurent que ce moment de grâce pourrait durer toujours, et elles se promirent que rien ni personne ne pourrait séparer la fille du forgeron et la fille de la terre. Que leur amitié serait éternelle. Oh, qui n'a jamais fait cette promesse ? Et puis, un soir, Amine ne vint pas à leur rendez-vous quotidien. Le lendemain, elle expliqua à Aléa que son père était mort et que sa tante allait l'emmener avec elle loin d'ici, à Providence, la capitale de la Gaëlia. Aléa ne revit plus jamais Amine et retrouva la solitude silencieuse à laquelle on l'avait abandonnée depuis l'enfance. Elle accepta, résignée, la seule vie que la Moïra semblait vouloir lui offrir, celle d'une orpheline oubliée. Aléa soupira et laissa s'évanouir le visage d'Amine au fond de ses pensées. Puis, lentement, elle trouva le sommeil. Au milieu de la nuit, pourtant, elle fut réveillée par la douleur. Son ventre lui faisait de plus en plus mal, et quand elle se leva, elle sentit un liquide chaud entre ses jambes. Prise de panique, elle s'approcha de la fenêtre où brillait la lumière blafarde de la pleine lune. Là, elle se pencha pour regarder l'intérieur de ses cuisses et découvrit une marque de sang. Elle poussa un cri d'horreur en plongeant sa tête dans ses mains et se laissa glisser par terre, dos au mur, les joues trempées de larmes. La douleur était intense dans sa tête et dans son ventre. Elle avait l'impression que son crâne allait exploser. Que se passait-il? Elle se dit d'abord qu'elle était en train de perdre la vie, qu'elle allait se vider de tout son sang jusqu'à en mourir. Elle imagina que c'était la Moïra qui la punissait de son vol. Puis elle se dit que c'était peut-être Almar le boucher qui lui avait jeté un mauvais sort. Soudain, elle eut un sentiment insupportable d'impureté. Ce sang la dégoûtait profondément, à cet endroit où il n'aurait pas dû être. Elle se dit qu'il était le corps de toutes ses fautes, et qu'il fallait qu'elle s'en débarrasse si elle voulait obtenir le pardon de la Moïra. Terrorisée, elle se précipita vers la cuve d'eau à côté du lit et sauta dedans pour se laver. Au même moment, Tara fit irruption dans sa chambre, alertée par ses cris.
« Que se passe-t-il »
demanda-t-elle en voyant Aléa qui sanglotait, nue, dans la cuve d'eau. Les larmes embuaient les grands yeux bleus de la jeune fille, et désemparée, elle répondit simplement « Tu sens !» en désignant son bas-ventre. La grosse aubergiste haussa les sourcils, puis éclata d'un rire soulagé. Aléa fut tellement étonnée par le rire de Tara qu'elle arrêta aussitôt de pleurer en s'étouffant, un peu vexée. Elle attrapa la serviette que lui tendait la brave femme avec un sourire réconfortant, en lui faisant signe de venir s'asseoir sur le lit à côté d'elle. Aléa passa la demi-heure suivante à écouter Tara. L'aubergiste expliqua à l'adolescente que cela arrivait à toutes les petites filles quand elles devenaient femmes, qu'elles pouvaient même être fières, et n'avaient en tout cas aucune raison de s'inquiéter.
« La nature est comme toi, Aléa. Il y a les saisons, la vie, la mort, le soleil, le cycle de la lune. C'est avec les règles que la femme s'inscrit dans tout cela, dans ce grand cycle de la nature. Tu comprends ?»
Aléa ne comprenait pas réellement, non. Mais elle trouva pour la première fois une chaleur maternelle. Elle, à qui on venait d'apprendre qu'elle n'était plus une enfant. Et quand elle fut vraiment rassurée, elle s'endormit tout doucement sur les genoux de l'aubergiste attendri. Le lendemain matin, Aléa eut droit au meilleur petit déjeuner de sa vie. Elle passa presque une heure à remercier les deux aubergistes. Elle n'avait jamais été de si bonne humeur, et elle se sentait tellement différente. Elle en était sûre maintenant. C'était bien la Moïra qui l'avait envoyée hier au milieu de la lande et lui avait fait découvrir ce corps enfoui, le premier événement d'une série de surprises qui semblait diriger sa vie vers un nouvel avenir. Elle n'était plus une enfant. Le surlendemain, le capitaine Fario revint dans l'auberge pour lui poser quelques questions. Il n'avait pas trouvé le cadavre dans la lande et se demandait ce qu'il s'était réellement passé. La petite préféra mentir pour qu'on la laisse tranquille. Elle prétendit qu'elle avait inventé tout cela pour se rendre intéressante, qu'elle avait juste trouvé une bague dans la lande, et c'était tout. Le capitaine fronça les sourcils et demanda aux aubergistes de la surveiller tant qu'ils n'auraient pas résolu cette affaire. Aléa resta ainsi plusieurs semaines à la taverne de Kerry et Tara, les aidant du mieux qu'elle pouvait, apprenant les secrets de son nouveau métier, sympathisant avec les clients réguliers, s'habituant même aux plaisanteries mal placées des ivrognes tardifs. et elle pleura le soir où Face, la barde, quitta Saratea pour un autre village. Chaque soir, après le départ des derniers clients, elle lavait les grandes dalles de terre cuite sur le sol de la taverne, couchait les bûches dans le foyer de la cheminée pour que le feu s'éteigne doucement, et montait se coucher, après avoir remercié les deux aubergistes qui lui offraient toujours un sourire chaleureux. Avant de s'endormir, c'était devenu un véritable rituel, elle sortait la bague qu'elle avait trouvée sur le cadavre de la lande et l'admirait à la lumière d'une bougie, la chérissant pour ce qu'elle était, son seul bien. Elle essayait de deviner ce que pouvaient bien signifier les symboles gravés à l'intérieur de l'anneau. Deux mains couvrant un cœur et une couronne. Elle pensait savoir que le cœur symbolisait l'amour et la couronne la royauté. Mais l'ensemble. Alors elle passait l'anneau à son doigt, puis s'endormait en s'imaginant que cette bague ne cesserait plus jamais de lui porter chance, car à présent c'était sûr. La Moïra lui accordait une nouvelle vie. Chaque jour, Aléa s'attachait davantage à ses deux hôtes. Ils la traitaient comme leur propre fille, l'écoutaient, lui parlaient, lui apprenaient toutes ces choses que son enfance ne lui avait pas permis de découvrir par elle-même. Et ils avaient même commencé à lui donner un peu d'argent pour son travail. Au bout de quelque temps, pourtant, elle se surprit à regretter certaines libertés de sa vie d'autrefois. Ses hôtes avaient beau la traiter comme leur fille, elle ne pouvait par moments s'empêcher de se souvenir qu'elle n'était sans doute pas à sa place. Les clients mettaient du temps à l'accepter, et elle continuait de lire la méfiance dans les yeux de certains. Et puis, elle avait du mal à se plier au rythme de vie des aubergistes, mais aussi à leur façon de penser, à leurs traditions, leurs habitudes. Il y avait quelque chose de triste dans leur existence, aussi généreux fussent-ils. Le manque absolu de surprise. Un soir, alors qu'elle jouait avec sa bague dans sa main, Aléa se demanda si la vie qu'on lui offrait à présent était vraiment faite pour elle. Elle était certes heureuse dans l'auberge, mais quelque chose au fond d'elle la poussait à sortir. Elle avait besoin de se sentir seule, sans doute, entièrement libre, et peut-être même en danger. La vie de bohème lui manquait. La rue, la peur, la clandestinité. Pas assez pour avoir envie de quitter sa nouvelle vie, mais suffisamment pour disparaître certains soirs, l'espace de quelques heures, le temps de retrouver les émotions brutes de jadis. Ainsi, elle commença à s'éclipser de temps à autre. Kerry et Tara ne lui en tinrent pas rigueur. Ils comprirent sans doute que la petite avait besoin de recul. Ils se contentaient de lui sourire quand elle rentrait, comme pour lui signifier qu'elle était toujours bienvenue et qu'elle pouvait prendre son temps avant d'accepter sa nouvelle vie. Kerry et Tara, malgré eux, n'avaient jamais eu d'enfant. Ils n'étaient pas sûrs de bien faire, mais ils auraient tout donné pour rendre Aléa heureuse. Plus rien ne leur faisait autant plaisir que la lumière dans ses grands yeux bleus.
« La petite a besoin de se sentir libre »,
avait expliqué un soir le bon aubergiste alors qu'il venait d'entendre Aléa rentrer au beau milieu de la nuit.
« Je suis déjà très étonnée qu'elle se soit habituée si vite à ce changement de vie. Fario lui-même n'en revient pas. »
« Je sais, mais j'ai peur qu'un soir elle ne revienne pas », avoua Tara.
« Et s'il lui arrivait quelque chose ?»« Elle s'est très bien débrouillée toute seule jusqu'à maintenant. Allons. Tu as surtout peur qu'elle ne veuille plus rester avec nous. Pas toi ? »
L'aubergiste ne répondit pas. Bien sûr qu'il avait peur, et sa femme le savait. Il n'avait jamais été aussi heureux que depuis l'arrivée d'Aléa. La petite avait changé bien des choses. Elle avait même réveillé, par sa simple présence, l'amour que Kerry et sa femme se vouaient l'un à l'autre. Mais il savait bien qu'elle ne pourrait rester éternellement. Un soir, alors qu'elle marchait lentement dans les rues du village un peu avant l'heure du dîner, Aléa surprit une conversation entre deux villageois. Assis sur le bord d'une fontaine de pierre, ils parlaient du haut roi de Gaelia. Éogan Mor n'était pas le plus vénéré de tous les hauts rois qu'avait connu l'île. Il n'était certes pas un roi mauvais, mais on disait de lui qu'il se laissait facilement manipuler. Il ne savait faire face aux druides, par exemple, et avait trop vite abandonné la guerre contre les religieux d'Arcourt. En somme,
et Hogan avait bien du mal à se faire respecter par les 5 fiefs de la Gaelia. Mais une nouvelle venait cependant réjouir les habitants de Sar, le comté le plus pauvre de l'île. Le haut roi allait épouser une Saroise. Mieux encore, une jeune fille qui était née à Saratea. Aléa s'approcha discrètement pour en entendre davantage.
« Comment s'appelle-t-elle »
s'enquit le plus vieux.
« Amine, c'est la petite Amine Salia, la fille du forgeron, tu te souviens d'elle ?»
Aléa sursauta en entendant le nom de son amie d'enfance. Il lui fallut un moment avant d'accepter ce qu'elle croyait comprendre. Amine allait se marier avec le haut roi. C'était impossible.
« Mais elle ne doit même pas avoir 15 ans !»
s'exclama le vieux villageois.
« Elle les a tout juste, » répondit l'autre. « Quand son père est mort, Amine est partie vivre à Providence, chez sa tante. Là, elle a étudié auprès d'un druide, et cette gamine est si douée qu'elle est devenue vate l'an dernier. Par la Moira, elle est tellement jeune que toute la capitale s'est mise à parler d'elle comme d'une enfant prodige. Une petite de Saratea, tu te rends compte? Et c'est ainsi que le haut roi l'aurait remarquée. Crois-tu qu'elle pensera à nous quand elle sera reine? Peut-être que le haut roi acceptera enfin de s'occuper un peu du comté de Sar.
Je l'espère, comme toi,
soupira le jeune villageois. Aléa n'en croyait pas ses oreilles. Elle regarda la bague sur le doigt de son poing serré et sourit. Oui, sa vie n'avait pas fini de changer. Lors, elle n'eut plus qu'une seule envie, courir à Loi et le Grill pour raconter son histoire à Kerry et Tara. Elle fit demi-tour et se précipita vers l'autre bout de Saratea, le cœur battant. Quelques villageois s'amusèrent de la voir passer. Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu la petite Aléa courir ainsi dans le village. Elle arriva essoufflée à l'auberge et se faufila entre les clients pour courir dans la cuisine de Tara, où elle trouva les deux aubergistes. Ils se regardèrent d'un air étonné, se demandant ce qui pouvait bien être arrivé à la petite. Aléa leur raconta toute l'histoire, fort maladroitement, essayant vainement de reprendre son souffle entre chaque phrase, mais elle était tellement excitée qu'elle mangeait un mot sur deux. Quand elle eut fini d'expliquer qui était Amine et ce qu'elle représentait pour elle, Aléa conclut enfin.
« Il faut que j'aille à Providence !»
Tara lança un regard inquiet à son mari. Elle devinait ses pensées.
« Aléa !»
répondit Kerry en poussant une chaise vers la jeune fille pour qu'elle puisse s'asseoir.
« Calme-toi un peu. Je comprends ton excitation, mais tout de même, tu vas un peu vite. Es-tu bien sûr d'abord qu'elle te reconnaîtrait ?»
Aléa parut étonnée. Elle avait espéré une autre réaction de la part de ses hôtes. Elle ne voyait pas comment l'aubergiste pouvait douter qu'Amine la reconnaisse et devinait que ce n'était vraiment pas ce qui l'inquiétait.
« Bien sûr qu'elle me reconnaîtra !» répondit-elle en fronçant les sourcils.
Kerry se tourna vers sa femme, espérant trouver les mots justes dans son regard, mais Tara était aussi mal à l'aise que lui. Il se pinça les lèvres, regarda Aléa de nouveau et lui offrit un sourire gêné.
« Et ensuite, » reprit-il d'un air désolé, « elle a sûrement mieux à faire avec la préparation de son mariage que de s'occuper d'une amie d'enfance qu'elle n'a pas vue depuis des années. Aléa, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de débarquer comme ça. »
Cette fois-ci, Aléa comprit que Kerry n'osait pas lui dire directement qu'il s'opposait à son voyage.
« Je suis sûre qu'elle serait ravie de me voir. » Et de toute façon, moi je le serai. Tara, je veux y aller.
Mais Providence est très loin d'ici, Aléa. Ce n'est même pas dans notre comté. Tu n'as pas les moyens de t'offrir un voyage pareil. Il faudrait t'acheter un cheval, avoir de quoi payer les auberges sur la route. Et là-bas, les soldats du roi ne te laisseraient jamais entrer dans le palais. Vraiment, Aléa, c'est impossible.
J'y arriverai sans problème. Je me suis toujours débrouillée toute seule. J'ai pas besoin d'acheter un cheval ni de payer des auberges. Pourquoi veux-tu m'en empêcher ?
Tara ferma les yeux et préféra se retourner pour faire mine de s'occuper de la cuisine. C'était la première fois qu'ils entraient en conflit avec la petite, et l'aubergiste ne savait comment réagir. Après tout, quels que fussent les sentiments qu'ils éprouvaient pour elle, ce n'était pas leur fille. Ils n'avaient pas vraiment d'autorité sur elle. Et pourtant, Elle était convaincue, comme son mari, qu'il était de leur devoir d'empêcher Aléa de faire cette bêtise. Elle espéra que la petite finirait par comprendre. Quant à Kerry, il commençait à perdre patience. Lui non plus n'osait trop user de son autorité sur cet enfant, qu'il ne connaissait vraiment que depuis quelques semaines, mais l'entêtement d'Aléa devenait ridicule. Et il aurait détesté la voir partir ainsi pour Providence, alors qu'elle commençait à peine à embrasser une vie normale.
Écoute, ma petite, je t'assure que c'est une mauvaise idée. Je comprends que tu aies envie de partir, mais tu dois savoir qu'on ne fait pas toujours exactement ce qu'on veut dans la vie. Et c'est pas le moment pour toi de partir seule sur les routes. Tu es encore trop jeune, tu commences tout juste à gagner ta vie. Nous en reparlerons quand elle sera mariée. Peut-être viendra-t-elle d'elle-même à Saratea pour revoir tous les villageois et alors elle te reconnaîtra sans peine. Mais en attendant, tu dois être patiente, tu comprends ?
Je comprends que vous voulez pas que j'y aille, un point c'est tout !
S'exclama Aléa en essayant de cacher les sanglots dans sa voix. Elle se leva brusquement et partit dans la grande salle pour prendre les commandes des clients qui commençaient à s'impatienter. Elle se força à ne pas pleurer et évita pendant toute la soirée les regards inquiets de Kerry et Tara. Même les clients remarquèrent sa tristesse. C'était la première fois qu'elle ne souriait pas aux farces des amuseurs habituels et qu'elle n'avait pas en retour un bon mot pour chacun. À la fin de la soirée, quand elle se retrouva enfin seule dans l'obscurité de sa chambre, elle laissa couler les larmes qu'elle avait retenues pendant toute la soirée. Elle essayait de comprendre la réaction de Kerry et Tara, mais non, elle n'y parvenait pas. Eux qui avaient été si bons avec elle jusqu'à présent. Pourquoi refusait-il soudain qu'elle fasse ce qui pouvait la rendre encore plus heureuse? Ne voulait-il pas vraiment son bonheur? Elle se dit qu'ils étaient finalement égoïstes et qu'ils voulaient simplement la garder avec eux parce qu'elle leur rendait service. Il ne l'aimait pas pour elle, mais pour ce qu'elle faisait dans l'auberge. Encore une fois, elle n'aurait pas dû faire confiance à la bonté des gens. La générosité est toujours intéressée, se souvint-elle. Mais il n'en serait pas ainsi. Elle voulait aller à Providence pour retrouver Amine, et les aubergistes ne pouvaient pas l'en empêcher. Après tout, ils n'étaient pas ses parents. Elle eut bien de la peine à trouver le sommeil. Elle voulait se convaincre qu'elle avait raison de vouloir partir, et pourtant, elle ne pouvait se résoudre à l'idée que Kerry et Tara faisaient preuve d'égoïsme. Peut-être étaient-ils sincères ? Peut-être avaient-ils simplement peur pour elle ? Comment savoir ? Elle en finissait par se détester de leur en vouloir, eux qui avaient tant fait pour elle. Oui, mais elle voulait tellement retrouver Amine. Elle ne cessa de se tourner et se retourner dans son lit et ne trouva le sommeil que tard dans la nuit. Le lendemain matin, Aléa traîna dans ses draps avant d'oser descendre. Elle ne savait plus trop si elle en voulait aux aubergistes ou si elle leur donnait raison. Elle n'était sûre que d'une chose. Elle voulait revoir Amine. Quand elle descendit enfin, elle fut accueillie par le sourire de Tara qui la prit dans ses bras et la serra contre elle sans rien dire. Cela réconforta Aléa, qui lui rendit son sourire et partit prendre le petit déjeuner qu'on lui avait préparé. Elle essaya d'oublier l'histoire de la veille et se délecta des grandes tartines grillées que Tara avait soigneusement beurrées pour elle. Au même instant, la porte de l'auberge s'ouvrit. Aléa leva la tête et aperçut un vieil homme qui entra lentement, en s'appuyant à chaque pas sur un long bâton en chêne blanc. Il était grand, maigre et inquiétant, le regard caché sous l'ombre d'une haute capuche. L'homme portait un long manteau, blanc lui aussi, au milieu duquel était brodé le symbole de la Moïra, un dragon rouge et effilé au milieu d'une frise complexe, qu'on ne trouvait d'ordinaire que sur les portes des maisons, pendant les fêtes de Samonios et le solstice d'été. Aléa s'arrêta de manger et resta immobile jusqu'à ce que le vieil homme parte s'asseoir à une autre table. Elle était inquiète et excitée à la fois. Était-ce possible ? Un druide, à Saratea ? Elle eut du mal à le quitter des yeux. Que venait-il faire ici, dans cette auberge ? Était-ce un bon ou un mauvais présage ? Aléa se demanda si elle devait se retirer. Tara était dans la cuisine et la petite se trouvait donc seule avec lui. Elle ne savait que faire. En tout cas,
Elle n'oserait sûrement pas aller prendre sa commande. Soudain, le druide tourna la tête vers elle, sans ôter sa capuche. « Bonjour, Aléa, » dit-il d'une voix grave et profonde. La petite sursauta et baissa les yeux vers son repas, faisant mine de n'avoir pas entendu. « Tu ne veux pas me dire bonjour ?» insista le vieil homme, avec un soupçon de moquerie dans la voix. Aléa leva lentement la tête vers le druide, mais elle ne parvint toujours pas à voir son visage, noyé dans l'ombre. Elle ne savait où poser son regard.
« Qui êtes-vous ? » balbutia-t-elle en regardant de nouveau son petit déjeuner.
« Comment connaissez-vous mon nom ?» À cet instant, Tara entra enfin dans la grande salle. Aléa poussa un soupir de soulagement. Tara s'arrêta brusquement au milieu de la salle. Elle sembla très étonnée par la présence du vieil homme. Elle adressa un regard à la petite, lui sourit, puis s'avança vers le druide en lui tendant respectueusement la main.
« Bonjour, » balbutia-t-elle. « Bonjour, druide, je ne m'attendais pas. Cela faisait si longtemps. »
« Plus de 10 ans, en effet. Je suis d'ailleurs surpris que vous vous souveniez de moi. »
« On n'oublie pas quelqu'un comme vous, » répondit l'aubergiste avec un sourire gêné. « Aléa vous a demandé ce que vous désiriez ?»
Le vieil homme sourit. Ses gestes lents n'avaient rien pour rassurer Aléa.
« Non, je crois que je lui fais peur, n'est-ce pas Aléa ?»
La petite resta muette et leva la tête vers l'aubergiste en fronçant les sourcils.
« Tu n'as aucune raison d'avoir peur, Aléa, »
dit Tara à la petite, en lui faisant signe de continuer son repas tranquillement. Aléa essaya de retrouver son calme et reprit son repas en lançant des regards discrets au vieil homme qui avait enfin enlevé sa capuche. Il était entièrement chauve et on avait peine à deviner son âge. Une seule chose était sûre, il était très vieux, mais avait gardé un regard fort pétillant. Un bouc de poils gris et blancs, taillé de près, soulignait son menton proéminent. Son large front était le plus effrayant, comme s'il cachait un tas de sombres pensées que la petite n'osait imaginer. Mais elle décida de faire confiance aux paroles apaisantes de Tara et se dit qu'au fond, elle avait sans doute simplement bien de la chance de voir un druide dans un si petit village.
« Décidément, la Moira est avec nous ce mois-ci, » reprit Tara en souriant au vieil homme. Notre chère Faith Dana, la harpiste, est passée elle aussi il y a quelques semaines, alors que nous ne l'avions pas vue depuis des années. Qu'est-ce que je peux vous servir, Félim ? »
Ainsi, il s'appelle Félim, pensa la petite. Cela ne me dit rien, et pourtant lui connaît mon nom.
Je voudrais seulement un petit bouillon, madame, si vous en avez pour moi.
L'aubergiste acquiesça et repartit vers la cuisine.
« Tu as grandi, Aléa. Je ne t'ai presque pas reconnue, » reprit le druide tout en se levant pour venir s'asseoir auprès d'elle.
Aléa resta immobile. « Il prétend me connaître, » pensa-t-elle. « Mais je n'ai pas l'impression de le connaître, moi. Peut-être m'a-t-il vue quand j'étais toute petite ?»«
Le capitaine Fario m'a raconté ton histoire de l'autre jour. Il pense que tu as dit n'importe quoi et que tu as volé cette bague à un étranger. » Ou peut-être même à quelqu'un du village. »
Aléa, bouche bée, laissa tomber ses mains sur la table. C'était donc cela. Le druide était venu la juger. Elle avait déjà entendu dire que dans les grandes villes, lorsqu'il y avait un crime, c'était les druides qui se chargeaient de juger le coupable. Se pouvait-il que celui-ci soit venu jusqu'ici rien que pour elle ? Aléa se mit à trembler.
« Moi, » reprit le vieil homme, « je suis sûr que tu disais la vérité. Tu veux bien me raconter comment cela s'est passé ? »
Aléa était paralysée. Elle ne savait que répondre. Lui tendait-il un piège ? Devait-elle mentir pour se protéger ? Le druide la dévisagea un long moment sans rien dire, attendant sans doute qu'elle s'explique. Puis il reprit d'un ton calme.
« Cette bague à ton doigt, c'est bien celle que tu as trouvée sur cet homme, n'est-ce pas ? »
Aléa précipita sa main sous la table, regrettant aussitôt son geste. Elle était envahie par un horrible sentiment de culpabilité. Elle avait pensé que cette histoire n'aurait pas de suite. Fario n'était jamais revenu, et ni Kerry ni Tara ne lui avaient posé de questions sur sa bague.
Je crois que je reconnais cette bague, Aléa, reprit le druide. Et si c'est bien la bague que je connais, alors je sais qui était l'homme que tu as trouvé là-bas, dans la lande.
Tara entra de nouveau dans la salle, apportant un bouillon au vieil homme. Félim prit le bol qu'elle lui tendait et la remercia d'un signe de tête. Il mangea en silence, et quand il eut fini, il dit simplement
« Peux-tu au moins me raconter comment tu as fait tomber Almar à la renverse l'autre jour ? C'était volontaire ?»
Cette fois-ci, Aléa prit vraiment peur. Elle avait presque oublié ce petit incident et fut saisie d'angoisse en se souvenant de cette force étrange qui l'avait traversée des pieds jusqu'à la tête ce jour-là.
« Je ne me souviens pas, » mentit-elle en bafouillant.
Félim sembla s'impatienter. Il soupira et reprit son bâton qu'il avait posé sur le banc, s'appuyant dessus des deux mains.
« Aléa, je dois absolument voir cette bague. C'est très important pour moi. »
La jeune fille eut un mouvement de recul et terrifiée, elle s'écria
« C'est hors de question! Laissez-moi tranquille !»
Les deux aubergistes arrivèrent aussitôt, surpris par les cris de la petite.
« Que se passe-t-il ici ? »
demanda Tara.
« Il veut me voler ma bague !»
s'exclama Aléa sans réfléchir. Le druide posa lentement sa main droite à plat sur la table.
« Aléa, je ne veux pas te voler cette bague, je veux juste la voir. »
Tara s'approcha de la petite avec un sourire gêné. Elle semblait ne pas vouloir contrarier le vieil homme.
« Aléa, si le druide te dit qu'il veut juste voir ta bague, c'est que c'est vrai. Tu peux la lui montrer. On doit obéir à un druide, Aléa. »
Mais la petite se leva brusquement.
« Non !»
cria-t-elle. Aléa tremblait de tout son corps. Elle était maintenant persuadée que le druide voulait la punir, et dans sa panique, décida qu'il valait mieux fuir. 1000 pensées se mélangeaient dans sa tête. Il fallait qu'elle se décide. Elle se dit qu'elle avait à présent une nouvelle raison de retrouver Amine. Celle-ci pourrait sûrement la protéger. Elle lança un regard brillant vers les deux aubergistes. Elle aurait voulu les embrasser pour leur dire adieu. Mais le druide s'était levé à présent, et sans plus attendre, elle se précipita vers la porte, renversant le banc dans sa course. Aléa s'enfuit de l'auberge sans se retourner. Elle courut instinctivement vers le sud, essuyant d'un revers de manche les larmes qui coulaient sur ses joues. Elle s'en voulait d'abandonner ainsi Tara et Kerry, surtout après la dispute de la veille. Mais une voix dans sa tête lui ordonnait de fuir, et au fond d'elle, elle était sûre que c'était la meilleure chose à faire. Le cœur serré, elle se promit simplement qu'un jour, elle reviendrait voir les aubergistes pour les remercier de leur bonté. Mais à présent, elle devait fuir. En fermant presque les yeux, elle accéléra encore le rythme de sa course. Elle ne voulait pas croiser le regard des villageois qui s'étonnaient de l'avoir détalée si vite, comme si elle fuyait une meute de loups. Quand elle fut arrivée à la sortie du village, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Devant elle commençait la longue route qui menait à Providence. Aléa respira profondément, jeta un dernier coup d'œil au village et se remit à courir. C'était sans doute ce que voulait la Moïra. Animée par l'espoir de retrouver Amine, la jeune fille disparut bientôt dans la lande, derrière la grande porte de Saratea.